Merci d'écouter Radio France Internationale, 19h ici à Paris, 18h en temps universel, 21h à Mamoudzou.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain Ouzoui, bonsoir à toutes et à tous.
Et Mayotte à la une ce soir.
Avec cette question, combien sont-ils encore sous les tôles? Il faudra des jours et des jours avant de connaître le nombre de victimes, dit le ministre de l'Intérieur à son arrivée sur l'île française de l'océan Indien. Nous y passons un large moment dans ce journal. Autre grand titre, la Syrie. Une semaine après avoir pris la fuite de Damas, Bachar el-Assad envoie un message de Russie. En Europe, Olaf Scholz, minoritaire au Parlement, perd un vote de confiance afin de convoquer, comme il le souhaitait, de nouvelles élections prévues le 23 février prochain.
Et on parlera de cette situation politique en Allemagne. Après ce grand journal du soir, nous appellerons nos collègues du journal La Croix qui se penchent sur le sujet.
Par ailleurs, en France, les excuses de Dominique Pellicot, le principal accusé du procès des viols de Mazan, s'est exprimé une dernière fois devant la cour avant de connaître le verdict dans 3 jours. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'eau commence à manquer, le décor est apocalyptique et nous craignons des pillages. Voici quelques témoignages désespérés d'habitants de Mayotte après le passage dévastateur d'un cyclone il y a quelques jours. Les secours continuent de chercher à l'heure actuelle des survivants dans les décombres des bidonvilles. Le bilan du cyclone reste encore difficile à déterminer. Mayotte ravagée, Mayotte endeuillée, témoignage de Lisa Morisseau, notre correspondante à Mamoudzou.
Mayotte ressemble à un cimetière. C'est un cimetière, tous les arbres ont été rasés et on voit juste les tôles des bidonvilles qui sont affaissées partout. Tout est éventré et quand on arrive à Mamoudzou, là où il y a le plus de bidonvilles qui sont tous quasiment construits à flanc de colline, tout est effondré. On dirait qu'il n'y a plus de vie. C'est mort, c'est un spectacle désolant.
L'urgence est de mise désormais pour porter secours aux habitants de Mayotte dévastés par ce cyclone. Le bilan humain est toujours provisoire. Officiellement, 20 morts pour l'heure. Il devrait être encore difficile à établir et pourrait s'élever à plusieurs centaines, voire quelques milliers selon les autorités. La course contre la montre est désormais lancée pour retrouver d'éventuels survivants. Laura Martel, bonsoir.
Bonsoir.
Le temps presse aussi pour rétablir des services vitaux comme d'une part l'accès à l'eau mais aussi à l'électricité.
Oui, parce que le cyclone a ravagé les fragiles infrastructures de l'île. Côté électricité, selon un premier bilan des conseillers départementaux de Mayotte, cet après-midi les lignes haute tension qui alimentent les industries surtout sont globalement rétablies, mais les lignes basse tension qui desservent les foyers sont fortement endommagées. Remettre l'intégralité du réseau en marche demandera au minimum un mois selon ces élus. Une pénurie d'électricité qui a aussi de fortes conséquences sur l'approvisionnement en eau, car sans courant, les pompes qui acheminent le précieux liquide sont à l'arrêt. Une situation d'autant plus critique qu'avant même le passage du cyclone, environ un tiers des habitants de Mayotte n'avaient déjà pas accès à l'eau courante. Ce manque d'eau potable implique à son tour de forts risques sanitaires et notamment la possible résurgence du choléra, alors qu'on rappelle que l'île avait déjà été frappée, là aussi, par une épidémie de cette maladie entre mars et juillet dernier.
Côté santé, justement, Laura Martel, là encore, les infrastructures ont été durement touché.
Oui, d'après la ministre de la Santé démissionnaire, les centres médicaux sont inopérants et le seul hôpital a été très endommagé, notamment les urgences, la chirurgie mais aussi la maternité. Or, vous le savez, c'est la maternité qui compte le plus de naissances en France. Il y naît habituellement entre 20 et 30 bébés par jour. La première urgence, selon la ministre, a été de repérer les malades chroniques lourds et de commencer leur évacuation vers La Réunion. La Réunion d'où 23 soignants ont fait le trajet inverse vers Mayotte, où une centaine de soignants de la réserve sanitaire et un hôpital de campagne doivent être déployés le plus rapidement possible. On attend aussi des policiers, la protection civile, l'aide qu'apporteront les secouristes et les ONG. Mais le problème, c'est que la piste de l'aéroport a été endommagée. Alors, si malgré la destruction de la tour de contrôle, elle reste utilisable pour les rotations humanitaires, et bien ensuite, les dégâts sur les axes routiers, les difficultés d'accès aux zones reculées ou au milieu de ce qui reste de ces bidonvilles, comme on nous l'a décrit, décrit, de ces bidonvilles dévastés, eh bien forcément tout cela va compliquer l'acheminement de l'aide, tout comme la coordination des secours est rendue très difficile par des problèmes de communication. Les trois opérateurs sur l'île font état de réseaux mobiles et internet quasiment à l'arrêt. Il faut donc imaginer tous ces habitants qui se retrouvent dans le noir, sans eau, pour beaucoup sans toit, et coupés des secours comme du monde.
Merci Laura. Laura Martel, ce qui nous amène à parler de l'économie sur l'île. L'économie de Mayotte est à genoux. Justine Fontaine a pu joindre Bouarima Ali Ousseini, les présidents de la Confédération des petites et moyennes entreprises. La reconstruction prendra du temps et va nécessiter l'aide de l'État, car beaucoup d'habitants et d'entreprises ne sont pas assurés.
La situation est dramatique, c'est un drame. 100% des entreprises que j'ai contactées, qui m'ont appelé, ont été touchées par la tempête. Soit le départ du toit et après infiltration d'eau dans tous les bureaux, donc tout le matériel perdu. Faut tout racheter, faut refaire toute l'électricité, faut refaire le toit. Sur des chantiers, le matériel a été emporté. Certains ont perdu, ça a été dérobé, ça a été volé parce qu'il y a des pillages là sur certains sites. Pour d'autres, tout ce qui est transport, etc., ils ont tout perdu. Il y a eu beaucoup de projectiles qui ont été emmenés par le vent. Ils ont heurté la majorité des véhicules. C'est des dizaines de millions d'euros de stock perdus.
Des propos recueillis par Justine Fontaine. Toujours au sujet de ce cyclone qui a dévasté Mayotte, le président des Comores décrète une semaine de deuil national, où les autorités comoriennes redoutent plusieurs centaines de morts, surtout dans les bidonvilles peuplées de nombreux Comoriens. Et puis, au Mozambique voisin, le cyclone Chido s'est retiré en début de journée après avoir frappé la région de Pemba. On dénombre au Mozambique une centaine de maisons détruites, ainsi qu'une vingtaine de morts.
Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur Radio France Internationale avec Adrien Delgrange. Adrien, des sirènes d'alerte entendues en Israël cet après-midi?
Des sirènes synonymes de mise à l'abri de la population. L'armée israélienne a détecté un tir de missile en provenance du Yémen, missile intercepté avant d'entrer en territoire israélien. Et puis nous apprenons par ailleurs ce soir concernant les otages à Gaza. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord, dit un membre du gouvernement israélien.
Et puis ce sont ses premiers mots depuis qu'il a été renversé, 8 jours après la chute du régime syrien. Bachar al-Assad est sorti de son silence.
L'ex-président syrien qualifie les nouveaux dirigeants du pays de terroristes. Dans un communiqué, il précise « Mon départ de Syrie n'était pas planifié. C'est Moscou qui a exigé mon évacuation immédiate vers la Russie le 8 décembre dernier. » Une semaine après la chute de Bachar el-Assad, l'Union européenne envoie un représentant à Damas pour rencontrer les nouveaux dirigeants syriens. L'UE prévient « Elle jugera ces nouvelles autorités par les actes et non par leurs promesses. » Théo Renaudon, malgré ses avertissements, depuis quelques jours, de nombreux pays se pressent dans envoyer leurs représentants pour nouer des liens avec ce nouveau pouvoir de Damas.
Paris, par exemple, envoie ce mardi une mission diplomatique, la première depuis 12 ans. Plus dans la retenue, Washington et Londres annoncent pour le moment avoir simplement établi contact avec les HTS, sans jusqu'ici envoyer de représentants. D'autres pays vont bien plus loin. Le Qatar rouvre son ambassade, comme la Turquie. L'Ukraine, elle, envisage de donner des céréales à titre humanitaire à la Syrie, où 12 millions de personnes ont faim. Tous ces gestes interviennent alors que le pays est toujours sous le coup d'importantes sanctions économiques internationales. Depuis la révolution de 2011 et la répression d'Al-Assad sur son peuple, une grande partie du monde avait mis la Syrie sous embargo strict. Pêle-mêle, embargo pétrolier, gel d'argent de l'État syrien à l'étranger, interdiction d'exporter des biens dans le pays, bref, économie sous asphyxie, ce qui a d'énormes conséquences pour les civils. L'envoyé spécial de l'ONU à Damas dimanche a appelé à mettre fin à toutes ces sanctions le plus vite possible. Mais pas si vite, répondent plusieurs pays et organisations qui disent attendre de voir comment sont traitées les minorités du pays sous ce nouveau pouvoir dominé par des islamistes.
Théo Renaudon.
En Allemagne, la voie est libre en vue de l'organisation d'élections législatives anticipées. Elle devrait avoir lieu le 23 février prochain.
Après la rupture de sa coalition début novembre, le chancelier Olaf Scholz ne dispose plus de majorité. Le chef du gouvernement a soumis un vote de confiance au Parlement. Ce résultat lui a permis, dans la foulée, de demander au président de la République de dissoudre le Bundestag. RFI Berlin, Pascal Thibault.
Un sabotage de la part du Parti libéral, son président Christian Lindner, ministre des Finances, jusqu'à son limogeage par Olaf Scholz début novembre, et qui écoutait le discours du chancelier comme simple député, s'est vu reprocher de manquer de maturité morale. La campagne électorale est clairement ouverte. Olaf Scholz s'est d'ailleurs adressé depuis le Parlement directement aux électeurs.
Je sais que la confiance dans notre coalition a souffert ces dernières années. Les disputes nombreuses entre nous ont été contre-productives. Mais critiquer en permanence, se plaindre ou abandonner, ça n'a jamais amélioré les choses.
Le chancelier a plaidé pour les investissements, pour moderniser l'Allemagne et pour la défense des réformes sociales. Son challenger, le favori des sondages, le président du Parti chrétien-démocrate, Friedrich Merz, a dressé un bilan au vitriol de l'action d'Olaf Scholz et de son gouvernement.
Avec vous, ce pays est confronté à l'une des pires crises de l'après-guerre. Monsieur le chancelier, vous avez eu votre chance, vous ne l'avez pas saisie, vous ne méritez pas la confiance.
Olaf Scholz n'a obtenu que les voix du groupe parlementaire social-démocrate et a clairement, comme prévu, perdu la question de confiance. Il s'est rendu immédiatement à la présidence de la République. Le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier, doit prendre la décision de dissoudre le Bundestag. Des élections anticipées sont prévues le 23 février. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En Azerbaïdjan à présent, 3 ans de prison pour un graffiti dans le métro, dans la capitale Bakou.
La condamnation en appel du graffeur français Théo Clerc a été confirmée aujourd'hui par la justice azerbaïdjanaise. Une décision injuste et disproportionnée selon son avocate française Margot Fontaine, qui considère que Théo Clerc est un otage diplomatique, victime collatérale pour un graffiti des très mauvaises relations entre la France et l'Azerbaïdjan.
On espérait bien sûr un allègement et on est très déçus parce que c'est une confirmation d'une décision qui est injuste, en plus discriminatoire, puisqu'elle est fondée sur la nationalité de Théo Clerc. Il n'est pas du tout politique ni politisé. Et là, en l'occurrence, le graphe qui a été réalisé à Bakou, c'est un graphe de son pseudo de graffeur. Donc il n'y a aucune phrase anti-régime, il n'y a aucune phrase anti-Azerbaïdjan, aucune revendication. Il a même écrit une lettre d'excuse au président à toutes ses audiences, il s'est excusé en disant qu'il était désolé, il a payé l'amende qui contribue à réparer le dommage qu'il a causé. On peut comprendre ce qu'il peut faire de plus, en fait. Donc, il paye le prix des relations diplomatiques qui sont très mauvaises entre la France et l'Azerbaïdjan. Force est de constater que les discussions qui ont pu y avoir entre les deux pays n'ont pas abouti à un résultat favorable. Donc, aujourd'hui, la France peut continuer ses discussions diplomatiques pour obtenir soit une information en cassation ou alors un transfert de Théo en France pour exécuter sa peine de prison. On est en train de réfléchir à toutes ces options.
Venons-en à la politique en France, où l'Assemblée nationale vient d'adopter à l'unanimité le projet de loi spéciale qui vise à permettre à l'exécutif de percevoir l'impôt, mais aussi d'emprunter sur les marchés pour assurer la continuité de l'État et de la sécurité sociale. Et puis, avec quelle équipe le nouveau Premier ministre va-t-il gouverner la France ? François Bayrou a consulté toute la journée. Le nouveau chef du gouvernement veut sonder les intentions de chacun pour composer son gouvernement. Après sa première série d'entretiens, le Premier ministre doit s'envoler pour Pau, ville du sud-ouest de la France, dont il est le maire depuis 10 ans. Il préside ce soir le conseil municipal de Pau avec l'idée de conserver son mandat local.
Également en France, le procès Pellico en Avignon dans le sud du pays, et c'est la fin de 4 mois de débat. La cour est partie délibérée.
Dominique Pellico est accusé d'avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer par des dizaines d'hommes. Ils sont 50 à comparaître à ses côtés. Aujourd'hui, ils ont pu s'exprimer une dernière fois devant la cour. Dominique Pellico, le principal accusé, a pris la parole. Des déclarations attendues qui n'ont pas étonné son avocate, Maître Zavaro.
Il a tenu à présenter ses excuses à sa famille, principalement. Il a tenu à remercier la cour pour les égards que la cour a eu à son endroit, eu égard à ses problèmes médicaux. Il m'a remercié effectivement et puis voilà, il avait besoin d'exprimer son ressenti sur ce qu'il a vécu pendant 3 mois et demi. Personnellement, j'ai pas constaté d'évolution notable le concernant, en tout cas sur le plan de ce dossier et de la vérité. J'attends d'avoir été entendue et comprise. Voilà. J'espère, très sincèrement et très humblement, j'espère que la Cour va pouvoir s'éloigner quelque peu du maximum légal qui a été prononcé et revendiqué par l'accusation.
L'avocate de Dominique Pellicot. Autre procès, celui de l'assassinat de Samuel Paty. Les peines d'un an à 16 ans de réclusion ont été requises contre les 8 accusés. La peine la plus élevée a été requise contre le russe d'origine tchétchène, Azim Ekspikhanov. Ce dernier a été jugé pour complicité d'assassinat terroriste. Et puis dans l'actualité économique, avant de refermer ce journal, les débuts du groupe Canal+ à la Bourse de Londres, fort de ses 26 millions d'abonnés dans le monde, dont plus d'un tiers sur le continent africain. Le groupe de télévision et de cinéma vient se frotter au marché financier. Nathanaël Vitran, une manœuvre politico-financière mûrie de longue date.
Oui, Vincent Bolloré a fait sienne la devise antique « diviser pour mieux régner ». 7 ans après avoir pris le contrôle du groupe de médias et de communication Vivendi, l'homme d'affaires l'a explosé en 4 entités distinctes. Hachette pour l'édition, Havas pour la communication et donc Canal+ se sépare de ce qui reste de la maison mère. Objectif pour l'actionnaire majoritaire, mieux valoriser l'ensemble. Le groupe Vivendi pesait un peu plus de 10 milliards d'euros sur la place de Paris. Bolloré espère que la somme des 4 filles de Vivendi dépassera 15 milliards d'euros. L'homme d'affaires ultra-conservateur a choisi 4 places financières différentes. Canal+ restera ainsi une entreprise française, mais sera cotée à Londres, un stratagème qui lui permet d'échapper à la fois à certaines réglementations européennes et de bénéficier au Royaume-Uni d'un statut particulier. Pour Canal+, le défi reste de taille. Concurrencé par les grandes plateformes américaines, l'avenir du groupe pourrait se jouer en grande partie sur le continent africain. Le rachat en cours du sud-africain MultiChoice, qui doit encore être validé par le régulateur, pourrait ainsi asseoir encore un peu plus son assise sur le continent.
Canal+ peine à convaincre les investisseurs. Au premier jour de sa cotation, son cours à la Bourse de Londres était en forte baisse.
Eh bien, merci Adrien Belgrange. C'était le grand journal du soir sur RFI, 19h16 ici à Paris. Et à suivre dans les prochaines minutes, c'est bien, on va évoquer la situation politique en Allemagne. On en a parlé dans le journal. Le chancelier Olaf Scholz a perdu ce lundi la confiance des députés. La voie donc est ouverte en vue de législatives anticipées qui se tiendront au mois de février en Allemagne. On appellera nos collègues du journal La Croix qui se penchent sur ce sujet. Et puis direction Kobané. Kobané, la ville syrienne qui est située à la frontière avec la Turquie. Kobané qui vit dans l'inquiétude après l'offensive d'armées qui sont soutenues par Ankara et qui, cette offensive est destiné à repousser les forces kurdes. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Babacar Diarra.
Bonsoir Romain.
Alors, c'est la cérémonie annuelle des CAF Awards. Ça se passe à Marrakech. Les meilleurs footballeurs et footballeuses de l'année sont attendus. Et le suspense a été ménagé jusqu'au bout.
Oui, les rumeurs vont bon train concernant le vainqueur du trophée masculin de meilleur joueur. La Confédération africaine de football a même fait en sorte de brouiller les pistes, car ce prix est le seul dont la liste n'a pas été réduite à 3 nommés. Les 5 encore en balance sont présents sur place, ce qui est rare pour être signalé. Je vous les donne dans l'ordre alphabétique. Simon Adingra, milieu offensif ivoirien de Brighton, Serou Guirassy, attaquant de la Guinée et du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, latéral du Maroc et du PSG, Ademola Lookman, attaquant du Nigeria et de l'Atalanta Bergame, et puis le seul gardien en lice, le sud-africain Ronwen Williams, qui défend en club les couleurs des Mamelodi Sundowns. La cérémonie vient de commencer au Palais des Congrès de Marrakech.
Et on suivra évidemment ce palmarès dans les différentes éditions d'Afrique Soir. Sur les pelouses italiennes, à présent, c'est toujours du foot, la 16e journée du championnat s'achève ce soir. Choc du haut du tableau entre la Lazio Rome, 5e, l'Inter Milan, 3e.
Les deux équipes sont à 31 points, à 6 points du leader, l'Atalanta Bergame, mais les Milanais ont un match en retard à disputer. Des Nerazzurri, dont l'invincibilité de plus de 2 mois a pris frein la semaine dernière avec une défaite contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. L'Inter veut donc retrouver le goût de la victoire, mais l'entraîneur milanais Simone Inzaghi, ex-joueur de la Lazio, n'attend pas de cadeau de son ancien club.
Disons qu'il faut souligner le bon travail de tout le monde.
Alla società, all'allenatore, insomma, Baroni sta
Marco Baroni fait un très bon travail avec une équipe bien organisée et des joueurs qui jouent bien au football. Il développe un beau football et c'est normal de les féliciter pour ça.
Proposta di gioco ed è giusto che venga evidenziato da tutti noi.
Lazio de Rome, Inter Milan, c'est ce soir à 19h45 temps universel.
Le foot féminin à présent est le tirage de l'Euro 2025 qui vient d'être effectué à Lausanne en Suisse. Et dès les matchs de poule, il y aura un choc France-Angleterre.
Les Bleus entreront vite dans le vif du sujet, dans la quête du premier titre de leur histoire. Elles ont atterri dans le groupe D avec donc des Anglaises championnes d'Europe et vice-championnes du monde en titre, les Pays-Bas et le Pays de Galles qui disputera son premier Euro. Cette 14e édition de l'Euro féminin aura lieu en Suisse du 2 au 27 juillet prochain avec un match d'ouverture du pays organisateur face à la Norvège sur la pelouse de Bâle.
L'actualité sportive hors football, c'est le basket. En NBA, Babacar, et les trois points qui pleuvent de plus en plus. Il y a un record qui a été battu la nuit dernière à San Francisco.
Et un record combiné par les deux équipes, les Golden State Warriors et les Dallas Mavericks, avec un total de 48 tirs primés inscrits, 27 pour les Warriors et 21 pour les Mavs qui l'ont emporté, 143-133, autour de 45 points. Et 13 passes décisives pour Dallas, l'arrière slovène Luka Doncic était ébahi devant ce festival offensif.
Aucune équipe ne pouvait rater. Ils avaient inscrit 18 paniers à 3 points à la mi-temps et nous étions toujours devant. C'est insensé. J'ai eu l'impression que personne ne pouvait manquer un tir. C'était un match amusant, avec beaucoup d'adresse, mais c'était aussi un match physique. On doit mieux contenir notre adversaire. Notre défense doit s'améliorer, mais évidemment, en attaque, nous sommes redoutables. Nous sommes une équipe très dangereuse et c'est ce qu'il faut.
Luka Doncic des Dallas Mavericks et puis en NBA, le match franco-français des pivots l'année dernière a été remporté par le Minnesota de Rudy Gobert face au San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, même si au rayon des points personnels, c'est sans surprise Wemby qui a dominé avec 20 points contre 10 pour son compatriote Gobert.
Eh bien merci Cardiras, c'était le journal des sports sur RFI, 19h21 ici à Paris et à Berlin. En Allemagne, c'est désormais officiel, il y aura des élections législatives anticipées au mois de février. C'était annoncé déjà après l'effondrement de la coalition gouvernementale le mois dernier. C'est confirmé suite au vote de confiance perdu ce lundi par le chancelier Olaf Scholz qui avait sollicité les députés. Bonsoir Alain Guilmol.
Bonsoir.
Journaliste au service Monde du journal La Croix. Alors vous vous penchez dans votre édition de demain mardi sur ce sujet. Première question, pourquoi Olaf Scholz a-t-il organisé ce vote alors que le mois dernier, la coalition avait déjà éclaté?
Oui, alors en fait, c'est la conséquence directe de cet éclatement. Il y a eu un désaccord au sein de la coalition, une coalition tripartite, ce qui est une rareté dans l'histoire de l'Allemagne, puisqu'il n'y avait jamais eu de coalition composée de cette façon-là, puisqu'il y avait à la fois les Verts, les libéraux et les sociaux-démocrates de Olaf Scholz qui dirigeaient donc cette coalition. Et il y a eu un désaccord qui s'est manifesté, enfin qui n'a cessé de s'amplifier depuis 3 ans où cette coalition est au pouvoir, notamment entre les sociaux-démocrates et les Verts qui étaient pour un plus grand endettement en Allemagne. Et vous savez que c'est une question très sensible pour les Allemands. Et les libéraux, qui étaient donc dans cette coalition, qui, eux, ne voulaient pas que l'endettement soit accru, puisqu'ils étaient très à cheval sur l'orthodoxie budgétaire. Donc, le désaccord n'a cessé de s'amplifier jusqu'à ce que le chancelier décide de faire sortir de la coalition, en fait, le libéral, le ministre des Finances, et puis ce qui a mis par terre cette coalition. Alors, donc, en conséquence, il devait se tourner vers le Parlement pour demander la confiance, sachant très bien qu'il allait perdre et que ça ouvrait la voie à des élections anticipées.
Donc, ces élections anticipées auront lieu au mois de février. Comment Olaf Scholz, le chancelier, se place-t-il en vue de cet objectif-là?
Alors, lui, il s'aligne sur les rangs pour être réélu et donc il va mener les sociaux-démocrates pour ces élections qui auront lieu donc le 23 février. Alors, il part en se pensant pouvoir l'emporter. Cela dit, il est un petit peu le seul à le croire parce que les sondages lui sont très, très défavorables. Il a un gros retard dans les intentions de vote, mais en plus, il a une impopularité personnelle qui est quand même très forte. Et donc, les sondages lui donnent 17% environ d'intention de vote, très, très loin des chrétiens démocrates, qui, eux, sont à 32-33% et qui sont les favoris de ces élections. Et donc, on voit mal comment Olaf Scholz pourrait réussir à arriver en tête. Enfin, lui, il pense encore qu'il peut renverser le cours de l'électorat, mais c'est très présomptueux de sa part. C'est un pari assez audacieux, assez aventureux, même on écrit demain dans le journal, parce que personne ne croit vraiment, y compris dans son propre camp, que les sociaux-démocrates pourraient l'emporter.
Pourquoi Olaf Scholz est-il si impopulaire ?
Alors, il est assez impopulaire. Je crois que ça tient beaucoup à son manque de leadership. C'est-à-dire, il ne s'est pas imposé comme quelqu'un qui témoignait d'une vision. Enfin, c'est quelqu'un qui était toujours un peu taciturne, manquant de charisme, ne tranchant pas, n'affirmant pas de position. Enfin, c'est quelqu'un qui fait de la politique en se voulant un conciliateur, qui donc ne s'est pas affirmé comme un leader, on peut dire. Et puis aussi, bon, il y a eu un concours de circonstances. C'est que l'Allemagne traverse une crise économique et une remise en question de son modèle économique. Et la coalition au pouvoir a pâti de cette crise, la crise dans l'automobile, l'inflation aussi, l'augmentation des prix de l'énergie. Tout ça a frappé l'Allemagne de plein fouet et a créé une atmosphère de doute sur la pérennité du modèle économique allemand.
Et il est indispensable au SPD, Olaf Scholz. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres candidats qui se présentent pour le SPD pour ces prochaines élections législatives?
Alors, c'est trop tard. En fait, ce débat a déjà été tranché. Effectivement, il y a eu un moment de flottement après l'éclatement de la coalition où le ministre de la Défense, qui s'appelle Boris Pistorius, qui est aussi un social-démocrate et puis qui est plus populaire, lui, à titre personnel, qui est un personnage un peu plus tranchant, un peu plus charismatique. À un moment donné, donc, les sociaux-démocrates se sont tournés vers lui, mais lui s'est dérobé, laissé la place à Olaf Scholz. Il semble qu'il veut laisser à Scholz, disons, de porter le poids de la défaite, puisque de toute façon, c'était très difficile de renverser le cours des choses.
En Allemagne, le quitte ou double du chancelier Olaf Scholz, le titre de l'article que vous publiez ce mardi dans La Croix et sur votre site internet. Alain Guilmol, merci.
Merci à vous.
En Syrie, l'heure est aux nouvelles autorités, évidemment, mais parallèlement à cela, le pays est touché par une offensive des armées qui sont soutenues par la Turquie dans le nord du pays. Ankara veut repousser les forces kurdes, d'où les inquiétudes de Kobané. Les habitants de Kobané, cette ville syrienne qui est située à la frontière avec la Turquie, qui est la place forte des FDS, des forces démocratiques syriennes, qui sont combattues par la Turquie. Un cessez-le-feu a gelé le front pendant quelques jours, mais hier soir, dimanche, il a pris fin. C'est un reportage à Kobané, signé Marie-Charlotte Roupy.
Le cessez-le-feu temporaire prend fin. Kobané n'a eu que quelques jours de répit. L'angoisse d'une nouvelle offensive des forces pro-turques, qui cette fois encerclerait la ville, monte, alors que les funérailles des victimes des 10 premiers jours de guerre s'enchaînent encore. De doigts levés vers le ciel, des milliers de personnes saluent le passage des 6 cercueils au cimetière des martyrs de Kobané. Ces combattants sont morts en tentant de reprendre le contrôle du barrage de Tichrin ou du pont de Karakozak. Les familles sont effondrées. Mazloum, un habitant de Kobané, est venu les soutenir.
Tous les jours, on vient ici pour enterrer des soldats. On pleure et quand on voit leur famille, ça nous brise le cœur. Maintenant, mort après mort, nous sommes arrivés à un point où il n'y a plus de place pour eux.
Sur l'une des sépultures creusées ce jour-là, le portrait d'une jeune fille en uniforme. L'un de ses proches, très ému, s'inquiète.
J'ai 2 enfants, une fille et un garçon dans les forces démocratiques syriennes. L'un est à Raqqa, l'autre je ne sais pas. Quand je vois le grand nombre de martyrs, je me dis que je devrais aller sur le front et profiter de mes enfants.
Avec la fin du cessez-le-feu, la population se prépare à la reprise des combats. Mais Kobané est en mauvaise posture. L'offensive précédente a causé des dégâts aux infrastructures qui alimentent la ville en électricité. La perte de la région de Manbij au profit des factions de l'armée nationale syrienne signifie la perte de la principale voie d'approvisionnement de Kobané. À l'hôpital civil, une nouvelle offensive serait un désastre selon Ogur Bali, administrateur de l'établissement.
Si on devait avoir des cas urgents, s'il devait y avoir beaucoup de blessés, nous faisons déjà face à des ruptures de stock de médicaments et d'équipements. Pour l'instant, nous avons un générateur, un autre de secours. On peut encore travailler 24 heures sur 24, mais on verra, on prendra des mesures. Et si ça continue comme ça, on peut tenir un mois tout au plus.
Autre inquiétude pour les habitants, l'acheminement de vivres et de carburant dépend intégralement à présent de la route menant à la ville de Raqqa au sud. Factions pro-turques et forces kurdes s'y font face. Si l'axe venait à être coupé, Kobané serait alors complètement assiégé. Marie-Charlotte Roupy, Raqqa, RFI.
18h, bientôt 29 minutes en temps universel. Vous êtes à l'écoute de RFI. Dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir. Et à la une, le football, les CAF Awards qui ont lieu ce soir à Marrakech. Et puis n'oubliez pas que notre session d'info, évidemment, elle continue après Afrique Soir et après le journal de 19h temps universel. Votre session reportage, Accent d'Europe ce soir en Autriche pour évoquer la situation des réfugiés syriens.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Intelligence artificielle et surveillance policière. Faut-il être contrôlé pour vivre en sécurité?
Mercredi.
Décrochage scolaire. Les métiers verts peuvent-ils redonner confiance aux jeunes?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.